Il est là. Il est là en chair et en os.
Salut Bernard.
Comment qui va notre Christian Page?
Ça va très bien.
Tu nous as préparé encore un beau programme. C'est très agréable, je te le dis, de finir la semaine avec toi.
Excellent. J'espère que les auditeurs également apprécient cette petite note souvent un peu plus légère, quoique cette semaine, de l'information un peu plus difficile.
Alors là, il faut se mettre en mode un peu moins badineur et un peu plus sérieux parce que là, il est question de la fusillade de Las Vegas.
Voilà, on revient sur la fusillade de Las Vegas. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette histoire-là, puis on comprend bien, on le met entre guillemets, le très intéressant, c'est que depuis les événements de dimanche dernier, donc je rappelle rapidement les faits. Le dimanche dernier, il y a ce Stephen Paddock, un homme de 64 ans, qui, depuis le 32e étage du Mandalay Bay Hotel, a tiré sur une foule qui assistait à une sorte de concert, un festival de musique country. Il a fait 59 blessés et plus de 59 morts et près de un peu plus de 500 blessés. Mmh. Donc, c'est la pire fusillade de toute l'histoire des États-Unis. Là, on faut bien se comprendre avec ça. Et quand je dis que ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la semaine, donc depuis ces événements, peu à peu, on voit se former une théorie du complot sous nos yeux. Donc, on voit les mécanismes de la théorie du complot se mettre en place. D'abord, il faut dire que cette semaine, YouTube a été sévèrement critiqué pour favoriser. Ils ont un algorithme qui permet de mettre en premier plan de favoriser certaines vidéos plus que d'autres. Et là, ce qu'on a reproché notamment à YouTube cette semaine, c'est que leur algorithme mettait en première vision les vidéos dites conspirationnistes, dont certains étaient tout à fait truqué. Il y en a un, par exemple, qui avait été tourné avec un téléphone portable où on voyait donc des sortes d'éclats de lumière qui provenaient du 32e étage où se trouvait Paddock, donc qui correspondait au tir qu'il dardait sur la foule. Et on voyait quelques étages plus bas d'autres éclats de lumière derrière une fenêtre, laissant supposer peut-être qu'il y avait un deuxième tireur. Donc Paddock n'aurait été qu'un patsy, donc un bouc émissaire, alors que quelqu'un d'autre, une inside job, un travail de l'intérieur par les autorités pour tirer sur la foule, quoi qu'on ne comprendrait pas trop pourquoi le mécanisme de ça. Cette vidéo était entièrement truquée et elle a finalement été retirée par YouTube, mais elle a été retirée après avoir quand même sollicité 30 000 vues. Donc, on voit que ça se passe rapidement. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit cette théorie du complot apparaître? Et là, bon, évidemment, il y a aux États-Unis des gens qui sont spécialisés. Je pense à Alex Jones, un animateur de radio très populaire, très conspirationniste. Lui, il croit à tout. Nous ne sommes pas allés sur la Lune. Le World Trade Center a été organisé de l'intérieur. Bon, tu vois un peu le genre. Donc, Alex Jones a déclaré soudainement cette semaine que Paddock était un membre qui était directement associé au mouvement antifasciste américain. Alors, une information qui est complètement démentie par les autorités américaines, tout comme cette association qu'on a fait avec Paddock et la réclamation, disons, de l'État islamique disait, nous, ce type-là s'est converti à l'islam. Et c'est,
il n'y a absolument rien
de vrai là-dedans. Ce qui est intéressant, donc, dans cette théorie du complot, c'est qu'on assiste à deux éléments qui ici se joignent parfaitement bien. D'abord, les théoriciens du complot adorent la vérité dans le chaos. Ça fait quand même des années que tu fais de la radio, tu as fait de la politique. Bon, on sait qu'au départ, lorsqu'une information nouvelle, une information à caractère social apparaît, comme dans le cas de cette fusillade, on le sait, les journalistes sont rapidement envoyés au front. Moi-même, j'ai commencé comme journaliste il y a 30 ans. On m'a envoyé au front, c'était la chronique des chiens écrasés, et on devait couvrir l'événement. Et là, tu arrives sur place, puis les policiers n'ont pas encore fait de point de presse, donc tu es devant, par exemple, une résidence, tu dis, je suis devant la maison X, où il y aurait un ou plusieurs victimes. On ne sait pas trop. Donc, on y va un peu en se disant, on va peaufiner les versions au fur et à mesure où l'information va entrer.
Les médias directs et les réseaux sociaux deviennent des bêtes qu'il faut nourrir.
Voilà. Et il est évident qu'au départ, cette information-là va être souvent très approximative finalement devenir se peaufiner avec le temps. Or, les théoriciens du complot pige là-dedans. Donc, ils adorent.
Prennent la première version.
Voilà, ils prennent une première version et là, ils la comparent à une seconde version. Et là, d'un coup, au départ, les policiers disaient qu'il y avait deux suspects. Maintenant, il n'en a plus qu'un seul. Est-ce qu'on a escamoté un suspect? Si on a escamoté un suspect, pourquoi est-ce qu'on l'a escamoté? Et là, donc, tu vois, on met en place les briques qui vont servir à monter cette théorie du complot. Et le deuxième élément, et on le voit bien ici, c'est ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. Donc, pour faire simple, en psychologie sociale, tu sais, si tu dois marcher, si tu dois aller plus vite, tu vas accélérer le pas. Si tu dois soulever des poids, un plus grand nombre de poids, tu dois mettre plus de force dans ce que tu dois soulever. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action-réaction. Mais on ne peut pas analyser des événements sociaux en suivant cette règle-là. Sinon, on se retrouve dans un raisonnement un peu vaseux qui s'appelle le biais de proportionnalité. C'est-à-dire que la conséquence doit être aussi grande que la cause. Donc, par exemple, tu dis on a assassiné le président Kennedy. Donc,
ça peut, pas être juste, ça peut pas être juste un fou.
Voilà, t'as tout compris.
Donc, comme il y en a 59, c'est la plus importante, ça peut pas être juste un détraqué.
T'as tout compris. Donc, on se dit, si on a assassiné le président américain, c'est tellement énorme les conséquences d'imaginer qu'un zélé derrière une fenêtre d'un sixième étage avec une carabine Carcano a abattu le président, c'est invraisemblable. De penser que Marilyn Monroe, qui a redéfini le star system, l'icône de son temps...
Elle serait juste morte de...
Se suicider en prenant des barbituriques, ça ne se peut pas.
C'est trop banal.
Trop banal. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand derrière pour justifier la conséquence. Et dans le cas présent, on voit très bien ce mécanisme se mettre en place. On l'a mentionné, c'est la pire fusillade de l'histoire des États-Unis. 59 morts, plus de 500 blessés. Alors, d'imaginer qu'un type à peu près sans passé, sans antécédent...
Dont on connaît presque rien.
Absolument
rien.
C'est
ça qui est hallucinant.
Voilà, donc qui vraiment est vraiment une sorte d'outsider, un étranger... À ce genre de tuerie, généralement, les gens qui commettent... Parce qu'il y a les tueurs en série et les tueurs de masse. Dans le cas de Paddock, on parle d'un tueur de masse, un type qui va commettre un geste...
Il n'y avait même pas un casier judiciaire, ce gars-là,
pas
non?
Pas de casier judiciaire.
Son père avait été braqueur.
Braqueur de banque.
Mais bon,
sans grande conséquence, semble-t-il,
mais
pour lui.
Mais lui, il n'avait pas trempé dans la violence.
Absolument pas. Il s'était rendu millionnaire avec des investissements dans l'immobilier. Il y avait pas, le type n'avait pas de problème financier. On ne lui connaît c'est pas non plus de problèmes mentaux, on ne lui connaît pas non plus de comportement de violence.
Je pense que c'est ça qui fait le plus peur.
Voilà, c'est un individu vraiment qui est sorti, qui sort du cadre de ce à quoi on peut s'attendre pour les tueurs en série ou les tueurs de masse. Généralement, ils ont des comportements, des actions qui laissent supposer éventuellement...
Mais ça, c'est de la bonne matière pour les conspirationnistes. Ah, parce qu'il faut trouver une raison, n'est-ce
absolument.
Pas?
Absolument. Et comme la conséquence, elle est énorme, la cause doit être à la grandeur de la conséquence. Voilà. Donc, une sorte de pensée un peu vaseuse qu'on appelle le biais de proportionnalité.
Je trouve ça très intéressant. Oui. Très intéressant. Donc, je ne sais pas si on finira jamais par comprendre les motivations derrière ce gars-là. Est-ce qu'on va... Tu sais, à un moment donné, quand il avait dit qu'il avait transféré ses 100 000 $ aux Philippines, tout
oui,
ça,
absolument.
Là, si je ne me trompe pas, c'est sa conjointe qui est d'origine philippine.
Bon.
Mais là, je me disais, à un moment donné... Bon, on sait que la filière islamiste est présente aux Philippines. Bon, je me disais peut-être que c'est comme ça qu'on va retrouver un lien qui va nous permettre de comprendre son motif. Parce qu'on ne sait toujours pas quel est le motif.
Et voilà. Et c'est amusant parce que là aussi, on voit les théoriciens du complot qui récupèrent des informations. Les policiers ont rendu public des photographies prises dans la chambre de Paddock.
Oui.
Donc, on le voit, lui, en partie, sur certaines photographies. On voit également qu'il avait un véritable arsenal avec lui, des armes automatiques. Et sur une photographie, on voit une table avec un stylo et une note, une feuille. Alors évidemment, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un reçu d'hôtel, n'importe quoi. Mais les théoriciens du complot récupèrent cette photo-là en disant, voilà, il semble que Paddock aurait peut-être laissé une lettre d'adieu révélant des motivations pourquoi il a commis ce geste. Et les autorités, bien sûr, gardant le silence sur la nature de la note, ne font qu'entretenir cette idée qu'il y a un complot derrière la fusillade.
OK, on s'arrête. Et au retour, là, on change vraiment de registre. On s'en va au Malawi parler de vampires.
Les
vampires au Malawi dans quelques minutes, mesdames et messieurs. De retour à Mythes et complots avec Christian Page qui nous amène maintenant au Malawi pour une histoire de vampires assassinés.
Oui, en fait, c'est sûr que la nouvelle peut faire sourire quand on lit le grand titre, mais finalement, les conséquences sont quand même très malheureuses. En fait, c'est une série d'incidents qui se sont passés au cours du dernier mois au Malawi. Je rappelle aux gens, le Malawi est un tout petit pays d'Afrique méridionale qui se trouve sur la côte Est. Et là, on apprend qu'au cours des dernières semaines, 6 personnes ont été tuées, dont le dernier incident remonte à dimanche dernier. 2 personnes ont été lynchées dans le district de Mulanje parce que ces gens-là, il faut dire qu'en Afrique, La croyance, les superstitions sont très, très fortes, très ancrées. Et ces gens-là ont peur de la magie, ont peur de la sorcellerie et ont peur des vampires. Il y a des sortes de mouvements de panique, d'hystérie collective qui se développent. Et c'est pas la première fois que ça se passe. Et là, donc, depuis un mois, cette région de Mulanje est soudainement au centre d'une hystérie collective où les gens ont peur, craignent leurs voisins, les accusent d'être des vampires ou des buveurs de sang, d'utiliser du sang comme ça pour faire des rituels. Et voilà, on en est à 6 victimes. Les 2 dernières ont été lynchées la semaine dernière. Et là, les autorités commencent, bien sûr, à s'inquiéter
Parce que les gens se font justice eux-mêmes.
Et voilà. Et ce qui est assez étonnant dans ce cas-là, il n'y a eu aucune plainte de déposer. Donc, les autorités n'ont pas été saisies de cette affaire. Il n'y a pas des gens qui se sont plaints. C'est comme une sorte de mouvement de foule. Soudainement, on se met à pointer quelqu'un dans un village. On dit « c'est un vampire ». Et soudainement, il y a une sorte de mouvement collectif. Les gens se lancent à leur poursuite sans saisissent, les battent sur la place publique et vont les lyncher. Ça va jusque-là.
Ils vont les pendre.
Ils vont les pendre. Et c'est ce qui s'est produit dimanche dernier. Et là, les autorités commencent très sérieusement à craindre. Même les autorités américaines, par exemple, ont rappelé des Peace Corps qui se trouvaient dans la région. Ils nous ont dit « il ne faut plus se rendre sur les lieux parce que vous risquez, en tant qu'étranger, vous risquez éventuellement d'être pris pour ces fameux vampires. »
Et on ne pourra pas vous protéger.
Non, voilà, vous allez faire l'objet d'une sorte de vindicte publique et vous allez peut-être vous retrouver pendu à un arbre. Donc, on voit que de plus en plus, ça brasse dans ce coin-là et ça brasse essentiellement sur des croyances et des superstitions qui n'ont absolument aucun fondement dans la réalité. Et ce n'est pas la première fois. Déjà, là, depuis les années 70, à quelques reprises, il y a eu de ces mouvements d'hystérie qui se sont produits, à un point tel même que des autorités, à un moment donné, avaient dû interdire un animateur de radio qui disait qu'effectivement, il y avait des buveurs de sang dans la région. Et évidemment, ça avait déclenché des mouvements de panique. Donc, on le voit, c'est quand même très sérieux, même si de ce côté-ci, on regarde ça, puis les grands titres nous font presque sourire. Et pourtant, on a l'impression, quand on voit ça, on a presque l'impression qu'on se retrouve au Moyen Âge. Donc, de voir que ces grands mouvements d'hystérie vont soulever une sorte de mouvement public et qui vont se terminer, malheureusement, par des assassinats souvent d'innocents.
Nous autres, on a un problème avec les buveurs de forts locaux, puis eux autres, il y a un problème avec les buveurs de ça.
Absolument.
Bon, parlons des... Écoute... Tu m'as appris quelque chose. Il y a les ovnis.
Bien sûr.
Et là, j'ai appris l'existence des OSNI.
Les OSNI, oui, les OSNI, les objets sous-marins non identifiés. Écoute, c'est une information qu'il faut prendre avec des pincettes.
Oui,
bien sûr. C'est un témoignage d'un type qui s'appelle Mark D'Antonio. Mark D'Antonio, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une organisation qui s'intéresse aux ovnis qui s'appelle le MUFON. L'acronyme veut dire Mutual UFO Network. C'est une organisation qui a été créée à la fin des années 60 pour remplacer les enquêtes américaines qui étaient menées par l'armée de l'air. Donc, c'est une organisation entièrement civile. Ce Mark D'Antonio est un des gros bonnets de l'organisation. C'est le spécialiste de l'analyse des images. Mm-hmm. Il est également le propriétaire d'une petite entreprise qui fait des effets spéciaux. Ah. Et voilà que ce Mark D'Antonio nous raconte, et bon, bien sûr, Bernard, il faut le croire sur parole.
Bien sûr, toujours.
Toujours pas de photographie.
Non, jamais de photographie.
Donc, ce Mark D'Antonio a révélé la semaine dernière qu'il y a quelque temps, alors qu'il avait fait un petit contrat pour la US Navy, on l'aurait invité à bord d'un sous-marin. Bien sûr, Mark D'Antonio n'a pas pu refuser cette invitation. Il se retrouve donc à bord du sous-marin. Le sous-marin fait une sortie. Il est en plongée. Et soudain, on capte sur les écrans sonores un appareil qui se déplace à très grande vitesse sous l'eau.
Sous l'eau?
Sous l'eau. Alors, branle-bas de
combat. Une soucoupe volante sous-marine.
Voilà. Donc, branle-bas, un OSNI.
Oui. Un objet sous-marin ou encore un objet submersible non identifié.
Alors, branle-bas de combat à l'intérieur du sous-marin. On essaie de localiser l'appareil parce qu'il faut savoir que ce qu'on a de plus vite à peu près qui va sous l'eau...
Écoute, j'espère que c'est un sous-marin nucléaire pour être capable de le rattraper.
Oui, parce que ce qu'on a d'à peu près le plus vite sous l'eau, c'est une torpille qui fait à peu près 40 nœuds. Alors, cet objet s'est déplacé à quelques 200 nœuds sous la surface de l'eau, branle-bas de combat. Alors, notre type, ce Mark D'Antonio, apprend alors que plusieurs sous-marins, parce que le sous-marin, quel hasard! Le sous-marin dans lequel il se trouvait faisait partie d'une sorte d'escadron de sous-marins pour chasser les OSNI.
Oui,
oui.
À l'intérieur d'un projet qui s'appelait le Fast Mover Program, le programme des objets à grande vitesse. Alors là, il apprend effectivement que plusieurs sous-marins sont utilisés dans cette traque aux objets volants ou aux objets sous-marins non identifiés. Et lui, donc, il a été témoin un peu par la bande de toute cette agitation alors que l'un de ces mystérieux objets sous-marins aurait été détecté. Alors, évidemment...
Quelle coïncidence, hein? Il va faire un tour en sous-marin. Il se retrouve dans le sous-marin qui chasse les ophnies.
Les osnies.
Il en rencontre un.
Mieux, il est lui-même l'un des hauts placés d'une organisation qui s'intéresse aux ovnis. Mon Dieu, que le hasard fait bien les choses.
Mais hein?
Donc, ce Marc D'Antonio a fait cette révélation la semaine dernière à un magazine britannique qui, évidemment, qui a rapporté l'information, mais bien sûr, pas de photos, pas de preuves et bien sûr, aucun élément.
Mais peut-être quelques conférences lucratives pour M. Antonio qui pourra révéler, évidemment, tous les dessous de son escapade sous-marine.
Voilà. Absolument.
Bon, rapidement, il nous reste une minute pour parler vite. Il y a 50 ans, l'OVNI de Shag Harbour.
Voilà, ça se passe en Nouvelle-Écosse. C'est peut-être l'une des histoires les plus célèbres d'OVNI au Canada. Donc, ce soir-là, le soir du 4 octobre, donc on fêtait le 50e anniversaire cette semaine, des gens ont observé, et quand je parle des gens, il y avait non seulement des curieux, mais également des policiers de la GRC qui ont vu un objet s'abîmer dans la baie de Shag Harbour. Donc, pendant un moment, l'objet a flotté au-dessus des flots. Il était à peu près à 300 mètres de la côte. On a pensé au début qu'il s'agissait d'un petit avion qui était peut-être en difficulté. Et puis l'appareil s'est posé sur l'eau. On avait l'impression que c'était une espèce de phare qui tournait sur lui-même. Et l'objet se pose sur l'eau. Il coule! Alors évidemment, la GRC qui est témoin de ces événements-là, des policiers de la GRC qui sont témoins de l'événement, appellent les gardes-côtes. Et le soir même, on va se rendre sur place. On ne va trouver qu'une sorte de mousse sur l'eau, un peu comme une mousse, comme du savon à vaisselle.
Ouais.
Une mousse jaunâtre, à peu près inodore. Certains vont parler d'un une légère odeur de soufre.
On ne trouvera
jamais aucun débris, aucun corps, absolument rien. Et 50 ans après, ces dossiers sont toujours... On n'a jamais trouvé d'explication. Les dossiers sont toujours conservés aux Archives nationales à Ottawa. C'est l'une des histoires d'OVNI les plus curieuses jamais rapportées.
Il faut envoyer un sous-marin.
il faut envoyer... Traque à l'OSNI.
Voilà, absolument. Christian Page, merci.
Ça me fait plaisir,
et
Bernard.
Tu as ton émission le
dimanche de 14h à 15h, voilà. Mythe et complot avec Jeffrey Soubrani.
Merci d'avoir été là.
Ça
merci à Maryse Duchesneau, Alexandra Marcoux et Larry Dufresne, notre petite équipe. Tous les trois, toujours travaillants, loyaux, dévoués. Merci à vous, les auditeurs, d'être là toujours. Et c'est le Québec maintenant avec Paul Oud qui s'en vient.